intéressant. En tout cas, c'est l'idée que Pascal Michon et Luca vont avoir à nous démontrer dans les minutes qui suivent. Merci. Donc, tu peux comme tu veux. Tiens, Fred, si tu fais comme tu fais. On va regrouper les trois interventions. Comme ça, vous poserez des questions à la fin, on pourra répondre. Luca, il va. Parce que comme je suis obligé de manipuler pour montrer les images, je suis malheureusement obligé. Excuse-moi, Luca. Vas-y. C'est Pascal qui va commencer.
Bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer par contredire Jean-François. Je ne vais pas du tout vous montrer quelque chose que j'ai fait à partir d'une base de données. Je n'avais pas accès à la base de données, elle n'était pas encore disponible. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire les bonnes techniques habituelles de lecture d'archives, à savoir par sondage, avec une idée déjà, évidemment, au départ, un peu une idée a priori, qui était guidée par tout simplement ma lecture des mots et les choses. J'avais deux objectifs. Donc, pour le premier, c'était un objectif qui nous a tenu à cœur à l'ANR, c'était de faire un travail transversal qui puisse associer des historiens, des sociologues et des philosophes. C'est-à-dire, c'est pas toujours facile de tenir l'attelage bien droit, mais enfin, on peut les atteler, tous ces spécialistes. Donc j'ai essayé de faire un travail qui part de la description même de l'affiche et qui arrive dans le temps qui m'est imparti aujourd'hui, qui est suffisant mais qui sera trop court quand même pour que je développe toutes mes idées, à des propositions philosophiques. C'est-à-dire que tenir les deux bouts de la chaîne, la partie descriptive historique, archivistique, et puis la partie philosophique. Pour vous montrer que ça a un intérêt aussi qui dépasse une pure prise comme ça archivistique sur les textes. Le deuxième, c'est de travailler, deuxième objectif, c'était de travailler sur une question particulière qui me tient à cœur personnellement, c'est comme ça qu'on fait le meilleur travail en général, c'est en s'investissant dedans, et qui concerne le langage. Et donc, j'ai travaillé sur deux de ces dossiers que vous avez vus tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ça ? Schlegel. J'ai travaillé sur un dossier qui s'appelait Grammaire et un autre phi, écrit phi en grec, du langage, donc philosophie du langage, qui était le dossier de préparation des mots et des choses. Donc, ici, il s'agit bien non pas d'une utilisation exhaustive de cette base de données qui va pouvoir nous permettre de travailler autrement, mais d'un sondage tout à fait réduit, simplement un sondage qui a été choisi en fonction d'un problème qui m'a toujours semblé déterminant dans l'économie des mots et les choses, celui du passage de la grammaire générale à la philologie et à la linguistique au début du XIXe siècle. Et parmi les cinq dossiers que Michel Foucault prépare pour écrire les mots et les choses, donc il y en a deux qui concernent le langage. Le premier, qui est intitulé des grammaires, contient donc 151 fiches de lecture. Et le second, intitulé filles du langage, totalise quant à lui pas moins de 229 fiches, consistant chacune donc dans ces feuilles 21-27, c'était les formats de l'époque, écrites recto verso. Donc vous en avez une là, c'est la fiche 83 dans ma numérotation. C'est la fiche qui porte sur Friedrich Schlegel, La nature des flexions. Le titre, c'est le titre thématique qui se trouve à droite. Et c'est extrait en dessous de Essai sur la langue et la philosophie des Indiens, qu'il lisait dans une traduction française de 1837. Ces deux dossiers constituent un ensemble très fourni, qui témoigne d'un énorme effort de documentation. On peut discuter, on ne sait pas exactement quelles sont les dates pendant lesquelles il a travaillé, mais vu la masse de livres qui ont été lus, je pense, moi, que ça a duré plusieurs années. Pourtant, cette lecture réserve une première surprise de taille. C'est ça qui m'a étonné. c'est qu'on y observe à un certain moment une nette rupture dans le mode de traitement de l'information. Autant les théories du langage propres à la période de la Renaissance, puis à la période classique, et ça jusque dans les derniers feux de l'idéologie, font de la part de Foucault l'objet d'une recherche approfondie, avec de très très nombreuses lectures et de prises de notes, autant les lectures consacrées au langage dans la nouvelle épistémée, qui commence au XIXe siècle, sont peu nombreuses. Alors, peut-être que la base me démentira plus tard. Enfin, pour le moment, j'ai trouvé 7 fiches qui sont consacrées à l'essai sur la langue et la philosophie des Indiens, donc de Friedrich Schlegel, qui était paru en 1808. Une au système de conjugaison de la langue sanscrite de Bopp, paru en 1816, qui ne comprend en fait qu'une citation faite par Bréal dans son introduction à la traduction française de la grammaire comparée. Deux fiches à la grammaire comparée des langues sanscrites, zen, grecque, latine, lituanienne, gothique et allemande du même Bopp. Mais deux fiches pour un ouvrage qui comprenait quand même 6 volumes, paru entre 1833 et 1852. À cela s'ajoutent 2 fiches sur un opuscule de 55 pages. L'origine du langage de Jacob Grimm, de 1851. Une fiche sur sa Deutsche Grammatik, 4 volumes en 1819-1840. Et une fiche sur l'introduction de Bréal à la traduction française de la grammaire comparée de Bopp. Et précisons que toutes ces lectures sont faites dans des traductions françaises du XIXe siècle, sauf celle de la Deutsche Grammatik de Grimm, qui semble montrer une lecture directement en allemand, limitée toutefois à quelques pages de l'introduction. Voilà tout ce que l'on trouve concernant la nouvelle manière d'envisager les problèmes du langage qui apparaît au début du XIXe siècle. 14 fiches au total. Et on en conviendra, c'est peu. Déjà en soi, vu l'importance de cette question dans le développement de l'argumentation des mots et les choses, mais aussi en comparaison des 366 fiches consacrées aux deux périodes précédentes. 14 d'un côté, 366 de l'autre. Ce moment pourtant crucial de l'histoire des théories du langage ne représente tout compte fait que 3,6% du total. Certes, il n'est pas exclu que des documents aient été égarés, notamment d'éventuels dépouillements supplémentaires de cette littérature linguistique du XIXe siècle, mais cela semble peu vraisemblable car les autres dossiers consacrés à l'économie et à la biologie semblent, eux, bien complets pour cette période. Donc on ne comprendrait pas pourquoi celui-là, ce dossier-là, serait moins complet que les autres. À cette faiblesse du nombre d'ouvrages consultés, il faut ajouter le caractère très superficiel et souvent de seconde main de leur exploitation. En guise d'exemple, reprenons la section 4 du chapitre 8 des Mots et les choses, intitulée sobrement Bopp, et confrontons-la à ce que nous trouvons dans les dossiers de préparation. Cette section, vous avez certainement ça en mémoire, cette section vient après 2 sections consacrées à Ricardo et Cuvier. Donc c'est Ricardo, Cuvier, Bopp. Et l'ensemble joue un rôle stratégique dans le livre, car à travers ces auteurs, nous aurions accès dans les 3 domaines étudiés, donc le travail, la vie et le langage, toutes premières expressions de la nouvelle épistémie. Or, d'une manière assez étrange, qui n'a peut-être pas été assez remarquée, alors que Ricardo et Cuvier sont cités presque à chaque page des sections qui leur sont consacrées, Bopp apparaît très peu dans celles qui portent son nom. L'essentiel des textes cités renvoie en fait à d'autres auteurs. On trouve dans cette section 7 citations de la Deutsche Grammatik et de l'origine du langage de Jacob Grimm, 6 citations de la langue et la philosophie des Indiens de Schlegel. Bopp lui-même ne fait l'objet que de 4 références qui renvoient soit au système de conjugaison de la langue sanscrite, soit à la grammaire comparée. Page 297, des mots et les choses, Foucault affirme que Bopp, à la différence de Schlegel, essaie d'établir que les flexions ne sont pas une sorte de développement intérieur et spontané de l'élément primitif, mais des particules qui sont agglomérées à la syllabe radicale. Le M de la première personne en sanskrit, bhavami, ou le T de la troisième, bhavati, sont les faits de l'adjonction au radical du verbe, du pronom mam, je, ou tam, il. La note renvoie à Über das Konjugationssystem der Sanskritsprache, page 147. Or, si nous nous reportons aux notes de lecture prises par Foucault, nous voyons dans la fiche 101, intitulée P. Bréal, non, c'est pas celle-là, voilà, Introduction à Bopp, grammaire comparée 1866, qu'il tire en réalité ses informations de l'introduction de Bréal à la première traduction française des grammaires comparées. Donc, tu peux passer le 102, la suite de l'affiche. Pages 299 et 300, Foucault cite trois fois directement Bopp. Pour Bopp, le changement de sonorité n'est jamais arbitraire. Il est l'effet d'un certain nombre de lois. Les unes définissent les règles de changement lorsque deux consonnes se trouvent en contact. Ainsi, quand on dit en sanskrit « ati », il mange, au lieu de « ad-ti », de la racine « ad », manger, le changement du « d » en « t » a pour cause une loi physique. D'autres définissent le mode d'action d'une terminaison sur les sonorités du radical. Par loi mécanique, j'entends, c'est une citation de Bopp, principalement les lois de la pesanteur, et en particulier l'influence que le poids des désinences personnelles exerce sur la syllabe précédente. La note indique Bopp, grammaire comparée, trad française, Paris 1866, page 1, note. Ces deux citations sont extraites de la fiche 95, qui porte comme titre Bopp, grammaire comparée, traduction française 1866. Elles reprennent, en inversant l'ordre d'exposition, à peu près la moitié de la citation originelle relevée dans cette fiche, qui est à peu près tout ce que Foucault semble avoir lu directement dans Bopp. Page 301, Foucault cite de nouveau Über das Konjugationssystem. Mais c'est de manière encore plus vague que la première fois. Il arrive aussi, dit-il, que ces racines monosyllabiques soient redoublées, comme do se redouble dans le sanskrit dadami et le grec didomi, ou sta dans tishtami et istemi. La note indique seulement Bopp, Über das Konjugationssystem der Sanskrit-Sprachen. Curieusement, l'auteur a perdu son prénom et aucune indication de page n'est donnée. Mais on comprend pourquoi, quand on prend connaissance de la fiche 97, intitulé Bopp, système de conjugaison de langue sanskrit, 1816. Au verso, donc 98, voilà, vous voyez là-haut, on lit en effet la note suivante, didomi, c'est en grec, et istemi, racine do et sta, redoublement cf, idem, dadami et tishtami. Page 29 de l'introduction de Bréal. Ainsi, c'est de nouveau dans Bréal que Foucault a récupéré ces informations. Enfin, pages 301 et 304, donc c'est la quatrième référence à Bopp, Foucault fait un long développement sur les rapports des verbes aux racines chez Bopp. Bopp admet lui aussi, dit-il, que les verbes sont des mixtes obtenus par la coagulation du verbe avec une racine. Mais son analyse diffère sur plusieurs points essentiels du schéma classique. Il ne s'agit pas de l'addition virtuelle, sous-jacente et invisible de la fonction attributive et du sens propositionnel qu'on prête au verbe être. Il s'agit d'abord d'une jonction matérielle entre un radical et les formes du verbe être. Le as sanskrit se retrouve dans le sigma de l'aoriste grec, le er du plus que parfait ou du futur antérieur latin. Le bu sanskrit se retrouve dans le be du futur ou de l'imparfait latin. De plus, cette adjonction du verbe être permet essentiellement d'attribuer au radical un temps et une personne. La désinence constituée par le radical du verbe être apportant en outre celui du pronom personnel comme dans script si. La note indique Bopp, loco quitato, page 147 sequentes. Ce passage constitue donc le plus long développement consacré à Bopp, mais il se contente en fait de renvoyer en note à la même page 147 dont nous avons déjà vu que Foucault la tire de sa lecture de l'introduction de Bréal à la grammaire comparée. Et l'on trouve en effet dans la fiche 101. Donc, aux deux dernières lignes du verso 102, donc excuse-moi, voilà. Donc, aux deux dernières lignes du verso, c'est ça, voilà. Mmh. Vous voyez là-haut les deux dernières lignes. Donc, on peut lire de même le sigma du futur et de l'aoriste provient de as, entre parenthèses être, qu'on retrouve dans esti. Ouais. On voit, il a souligné esti. On voit assez distinctement. Donc, il est juste de dire au passage quand même que je n'ai pas trouvé d'où Foucault tirait les autres exemples qui sont présentés dans cette citation, soit qu'il les ait ajoutés de lui-même à partir de connaissances antérieures, soit que des notes de lecture aient été égarées. Ainsi, nous en arrivons à la conclusion suivante. Dans ce chapitre charnière, la section consacrée à Bopp, qui constitue elle-même une sous-charnière déterminante par rapport au développement précédent sur Cuvier et sur Ricardo, on ne rencontre en réalité qu'une seule citation, prise directement chez Bopp, celle des pages 299-300, dont on rencontre la fiche 95. Cette citation est extraite de la première page de la grammaire comparée, et comme on ne trouve aucune autre fiche de lecture de cet ouvrage fondamental, on peut légitimement se demander si Foucault l'a véritablement lu ou même parcouru. Toutes les autres références sont reprises de l'introduction de Bréal. Bref, autant la connaissance foucauldienne des œuvres de Ricardo de Cuvier apparaît solide, autant son information quant aux prémices de la linguistique moderne est limitée, lacunaire et pour l'essentiel de seconde main, en tout cas pour ce qu'on en connaît à travers ce dossier. Alors, quand on connaît le temps que Foucault passait en bibliothèque, son amour profond de l'archive, ce soin tenace qu'il a porté à sa documentation, et les dossiers que vous avez présentés le montrent très bien, quand on voit aussi le soin apporté à la prise de connaissance directe des savoirs de la période classique, on ne peut que s'étonner de cette rupture. Comment interpréter un tel dénivelé méthodologique? Quel sens donner à ce quasi-blanc documentaire sur une période aussi déterminante pour la naissance de l'épistémé moderne? Ne faut-il y voir, comme certains seront peut-être un peu vite tentés de le faire, que l'expression d'une négligence, voire d'une certaine désinvolture, un sérieux bien moins grand que ses partisans ne veulent le reconnaître, ou bien une telle obscurité au cœur même du dispositif théorique des mots et les choses, ne projette-t-elle pas au contraire une lumière assez vive et toute neuve, à la fois sur les présupposés philosophiques de Foucault et sur certaines limites de son entreprise jamais clairement mises en évidence jusque-là? Donc plutôt qu'un simple manque de sérieux, qui ne cadre pas avec ce que nous connaissons par ailleurs de Foucault, je pense qu'il faut voir dans ces déficiences une conséquence de ses positions épistémologiques les plus profondes. On sait que Foucault avait l'intention de sous-titrer son livre « Une archéologie du structuralisme ». Et c'est bien à la fois son structuralisme et la philosophie de l'historicité qu'il lui associait, même s'il n'a cessé par la suite d'en nier l'influence, qui s'exprime dans ce survol approximatif et plus que rapide de la littérature linguistique du début du XIXe. Si à partir de Bopp, il ne ressent plus le besoin de se documenter comme il l'a fait pour les deux périodes précédentes, ce n'est pas par légèreté. C'est tout simplement parce qu'il a le sentiment de rejoindre un terrain déjà bien connu. Avec la grammaire comparée et la nouvelle philologie, serait née la conception du langage et au-delà du monde et de l'histoire, qui aurait ensuite irrigué la linguistique générale saussurienne, puis, à partir des années 20, les mouvements formalistes et structuralistes. De Bopp, Schlegel et Grimm à Saussure et à ses successeurs, il n'y aurait donc pas de réelle solution de continuité et on pourrait très facilement relire les premiers à partir de seconds. Ainsi, la défaillance extraordinaire des notes de lecture foucauldienne sur cette période ne traduit-elle pas tant, à mon sens, un laisser-aller scientifique qu'elle ne révèle le sol même, pour reprendre une métaphore qui lui est chère, à partir duquel Foucault lit l'histoire des savoirs occidentaux. Elle est l'effet de son propre savoir. Il me semble que cette particularité des deux dossiers documentaires consacrés au langage jette ainsi une lumière nouvelle sur au moins deux aspects importants du projet, des mots et les choses. D'une part, permet d'introduire quelques éléments inédits dans le débat concernant l'inscription du texte dans le mouvement structuraliste contemporain. De l'autre, elle rend possible une lecture de ses limites qui ne se borne pas aux critiques qui lui ont été opposées dès sa publication et que l'on continue encore aujourd'hui à répéter rituellement, que ce soit à propos de sa conception de l'histoire, de sa propre position épistémologique en surplomb ou de la thématique de la mort de l'homme. Sur ces critiques, je vous renvoie au dossier donc, que nous avons publié dans l'année là, de réception des mots et les choses qui est paru à l'IMEC cours de l'année. Les présupposés à l'origine du déficit documentaire qui apparaît dans les fiches de préparation aux mots et les choses, donc transparaissent assez clairement, me semble-t-il, dans le chapitre 7, donc le chapitre précédent. Je parlais du chapitre 8. Dans le chapitre 7, donc, qui précède celui où est présenté l'apport de Bopp. Tout en analysant les dernières formes prises par l'épistémé classique, ce chapitre intitulé « Les limites de la représentation » énumère en effet les principaux aspects qui vont caractériser l'épistémé moderne et la distinguer de la précédente. Or, l'essentiel de ce contraste serait dû, selon Foucault, au passage d'une conception du langage à une autre, qui ressemble, à s'y méprendre, à celle du structuralisme des années 30-60, revue, il est vrai, à la lumière des philosophies d'historicité qui se sont déployées depuis Nietzsche et Husserl. Le monde classique, on le sait, aurait défini le langage avant tout comme un flux organisé de signes chargé de représenter le flux primaire, lui aussi organisé, des représentations subjectives des choses. Plus que le modèle sémiotique romain, ce mode d'être représentatif du langage aurait prolongé le modèle biblique de la nomination des créatures par Adam. Pour les classiques, le langage aurait été discours, et le discours une succession de noms qui constituaient comme autant d'échos assourdis et déformés d'un langage pré-babélien, ou encore, à partir du moment où le naturalisme lui emportait sur les modèles religieux, des cris poussés par les hommes lorsqu'ils étaient encore dans leur état de nature. S'éloignant radicalement de cette conception, le XIXe siècle commençant aurait quant à lui considéré le langage avant tout comme langue, c'est-à-dire essentiellement comme un organisme et un ensemble de fonctions dotées d'une histoire. Tant que la langue avait été définie comme discours, dit Foucault, elle ne pouvait avoir d'autre histoire que celle de ses représentations. Il y a désormais un mécanisme intérieur des langues qui détermine non seulement l'individualité de chacune, mais ses ressemblances aussi avec d'autres. Désormais, la recherche linguistique ne viserait plus, selon Foucault, les valeurs représentatives du langage, mais la dimension du grammatical pur. Je cite Foucault. Le langage n'est plus constitué seulement de représentations et de sons, qui à leur tour les représentent et s'ordonnent entre eux comme l'exigent les liens de la pensée. Il est de plus constitué d'éléments formels, groupés en systèmes, et qui imposent aux sons, aux syllabes, aux racines, un régime qui n'est pas celui de la représentation. Dans cette conception, ce ne serait plus la nomination, mais la flexion qui constituerait la question déterminante, le verbe et ses modifications morphologiques, en fonction des temps et des personnes, prendraient la place du nom et de ses mutations à partir des mots racines perdus. Et plus loin, Foucault, raffinant cette description, explique que 4 nouveaux segments théoriques définiraient cette nouvelle conception du langage réduite à la langue, c'est-à-dire à un système de signes sonores doté d'une organisation spécifique, systémique et arbitraire. Cite Foucault, le premier de ces segments concerne la manière dont une langue peut se caractériser de l'intérieur et se distinguer des autres. À partir de Schlegel, les langues se définissent par la manière dont elles lient les uns aux autres les éléments proprement verbaux qui les composent. À ce primat de la notion de système viendraient alors s'ajouter 3 segments adjacents, sur lesquels je vais passer rapidement, qui concerneraient la structure phonologique et morphologique de chacune de ces langues, une théorie nouvelle du radical et une nouvelle définition des systèmes de parenté entre les différentes langues. Et bien que Foucault affirme assez rapidement et de manière inconséquente, vu ses propres analyses, que la nouvelle grammaire est immédiatement diachronique, et qu'on sait bien que Saussure n'a pu échapper à cette vocation diachronique de la philologie qu'en restaurant le rapport du langage à la représentation, quitte à reconstituer une sémiologie qui, à la manière de la grammaire générale, définit le signe par la liaison entre deux idées, rien de tout cela ne sort en réalité de la conception structuraliste commune à l'époque. Le langage doit être abordé sous l'angle de la langue. Celle-ci constitue un système de signes associant une image acoustique et un concept. La morphologie possède un primat sur le lexique et la syntaxe. Les variations phonétiques suivent des règles strictes. Les langues peuvent être regroupées par famille en fonction de leurs caractéristiques structurales communes. D'une certaine manière, on peut donc voir dans ces descriptions une explicitation assez clairvoyante des positions partagées, même si elles ne sont pas toujours revendiquées, par la plupart de ses contemporains. Foucault, il est vrai, ne se contente pas de lire l'événement épistémique qu'il pense reconnaître à partir de cette vulgate linguistique structuraliste. Il lui ajoute un deuxième élément, qui lui vient de sa culture philosophique et de la réflexion sur l'historicité qui a commencé avec Nietzsche et s'est poursuivie chez Husserl, Heidegger et Cassirer. Pour rester succinct, rappelons que Cassirer a été le premier à s'intéresser dès la Belle Époque au surgissement de la thématique de l'organisme et de la fonction à partir de Kant. Donc substance et fonction que vous connaissez peut-être datent de 1910, et que Heidegger a, quant à lui, approfondi à partir des années 30 le concept d'une historicité conçue sans recours à l'homme. Cette transformation de la conception du langage, qui à la fois suivrait et guiderait souterrainement la mutation de l'analyse des richesses et de la science des êtres vivants, participerait à une mutation de l'espace général du savoir. Celui-ci ne serait plus celui des identités et des différences, celui des ordres non quantitatifs, celui d'une caractérisation universelle, d'une taxinomie générale, d'une mathésis du non mesurable, mais un espace fait d'organisation, c'est-à-dire de rapports internes entre des éléments dont l'ensemble assure une fonction. Citation de Foucault. Rompant donc avec le modèle du tableau de simultanéité sans rupture, cette transformation introduirait deux nouveaux opérateurs théoriques, l'analogie des fonctions et la succession des organisations. L'ordre classique qui distribuait en un espace permanent des identités et des différences serait ainsi remplacé par une nouvelle forme de mise en ordre, l'histoire, qui ne devrait pas être comprise comme simple recueil de succession de faits, mais bien comme un mode d'être fondamental des empiricités, c'est-à-dire comme le fond, citation de Foucault, le fond d'où tous les êtres viennent à leur existence. C'est pourquoi, précise-t-il plus loin, ces structures grammaticales qu'il est possible de comparer directement entre elles offrent deux caractères particuliers. D'abord, celui de n'exister qu'en système. D'une famille à l'autre, il y a discontinuité. Mais d'autre part, les systèmes grammaticaux, puisqu'ils prescrivent un certain nombre de lois d'évolution et de mutation, permettent de fixer jusqu'à un certain point l'indice de vieillissement d'une langue. On voit que l'historicité s'est introduite dans le domaine des langues comme dans celui des êtres vivants. Donc, qu'elle soit abordée par la linguistique de la langue ou par la philosophie de l'historicité, la mutation que décrit Foucault constitue ainsi le véritable acte de naissance de la conception qui constitue le moteur méthodologique des mots et des choses. Ce qui surgit là, au cœur des recherches sur le langage du début du XIXe siècle, c'est à la fois l'ancêtre de l'idée d'organisation structurale et le régime d'historicité radicale qu'elle présuppose. Donc le principal, je conclus, principal enseignement qui ressort de cette première approche des deux dossiers, approche très certainement insuffisante, des préparations des mots et les choses concernant le langage, et donc le suivant, les analyses que Foucault déploie à propos de Bopp, Schlegel et Grimm apparaissent moins comme tirées de la lecture des textes que comme des éléments chargés d'exemplifier l'idée d'une naissance de la pensée de l'organisme, de la fonction et de l'historicité radicale. Elles expriment des idées déjà formées au sein d'un structuralisme linguistique d'époque et d'une philosophie d'historicité héritée des débats du premier XXe siècle. Il resterait évidemment à montrer, ce que je ne peux pas faire maintenant, faute de temps, que je ferai certainement ailleurs, les conséquences de ces présupposés. En particulier, l'absence tout à fait remarquable, et là il faudra vérifier maintenant avec la base, de Humboldt et de la linguistique du discours dans ses représentations, dans cette représentation de l'histoire des sciences du langage. Hein, si vous lisez, vous l'avez fait comme moi, Les mots et les choses, vous trouvez une demi-page sur Humboldt. Donc, première chose, cette absence de Humboldt et qui entraîne aussi, je pense, un déficit de lecture vis-à-vis de Benveniste à son époque. Mais aussi, le manque, et qui n'est pas sans rapport avec le premier, le manque d'une poétique susceptible de rendre compte du fonctionnement complet de la subjectivation langagière. Quand Foucault s'affrontait à la littérature dans les années 60, il utilisait la poétique de l'époque, une poétique formaliste et en partie qui venait de Blanchot. Puis il a abandonné. Alors, il y a quelques textes dans les années 70 où il reprend la question de la littérature, en particulier la vie des hommes infâmes, sur laquelle nous avons travaillé l'année dernière. Mais c'est une problématique qui a quasiment disparu. Or, ça, certainement, ça l'aurait aidé, je pense, enfin, c'est ma thèse, dans cette réflexion qu'il mène petit à petit vers la fin des années 70, surtout 80, sur la question de la subjectivation. Et donc, on pourrait alors certainement mieux comprendre qu'avec les moyens traditionnels déployés par les philosophes, les multiples difficultés auxquelles il a été confronté donc, tout au long de ces années 70, ainsi que les vertus et les limites de ce recentrage sur le concept de sujet qui l'a mobilisé durant les dernières années de sa vie. Je vous remercie.